notre fin avec les versets que nous allons lire et on va faire notre déclaration que nous aimons faire ici parce que la Bible est inspirée de Dieu. Vous êtes d'accord? C'est la parole inspirée de Dieu. Elle est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée. Et on va préparer notre cœur pour la recevoir ce matin. Donc, on va dire, voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la parole incorruptible de Dieu. Et je ne serai jamais plus pareil. Je serai pour toujours changé. Amen, amen, amen. Alléluia. Donc, ce matin, j'ai hâte de partager ce message. Et on va parler de comment marcher dans la santé divine. On fait le septième message dans une série « Comment avoir le secret d'une vie heureuse ». Et il y a des gens ici qui veulent être heureux dans la vie, oui?
Oui.
Tout le monde veut être heureux dans la vie. Mais le problème, c'est que la plupart des gens cherchent le bonheur à la mauvaise place. Hein? Ils cherchent le bonheur dans les relations avec d'autres personnes, dans la boisson, dans la drogue, dans le sexe, dans l'argent, dans une carrière. Ils cherchent le bonheur partout et dans toutes sortes de par toutes sortes de façons. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? C'est que le bonheur, dans le fond, c'est réservé pour ceux qui craignent l'Éternel, qui marchent dans la sagesse de Dieu. Et comme on a dit, le clé primordial pour être heureux, c'est d'entendre la parole de Dieu et puis de mettre la parole de Dieu en pratique. C'est pas qu'est-ce que tu sais qui va te rendre heureux, c'est qu'est-ce que tu fais. Et c'est bien important. On a besoin de bâtir sur le roc, hein, c'est-à-dire entendre qu'est-ce que Dieu dit et mettre qu'est-ce qu'il dit en pratique. Et déjà, on a vu beaucoup de bienfaits, beaucoup de bonnes choses concernant une vie heureuse. Et aujourd'hui, on va continuer. Et on va parler de quelque chose de bien important, comment marcher dans la santé divine. Et pour commencer, on va aller dans notre texte principal, Proverbes chapitre 3. Donc, si vous avez votre Bible, je vous invite à regarder avec moi. Sinon, c'est sur votre feuille, dans les notes qu'on vous a données. Proverbes chapitre 3. Et on sait bien que c'est beaucoup plus agréable d'être en santé que d'être malade. Vous êtes d'accord? Je connais pas grand monde qui aime être malade, qui aime souffrir. Moi, de toute façon, j'aime être en forme, j'aime avoir de l'énergie, j'aime pas avoir mal. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment avoir mal? Pas grand monde. Et une autre chose que je sais, je suis père de 5 enfants et j'aime voir mes enfants en bonne santé aussi. Combien de vous aimez voir votre enfant malade? Il n'y a pas un bon parent qui aime ça. Il y a quelque chose, surtout dans le cœur d'un parent, quand il voit son enfant souffrir avec une grippe ou avec un accident ou une blessure ou quelque chose, il y a un cœur de compassion. On dit souvent même, « Oh, j'aimerais mieux être malade à sa place. » N'est-ce pas vrai? Je sais pas. Combien de mamans, surtout, vous avez déjà eu cette expérience de voir un de vos enfants souffrir et vous avez eu la pensée, « Ah, si seulement c'était moi à place de lui. » Est-ce qu'il y a des mamans qui ont eu cette pensée? Des papas aussi? Laisse-moi vous dire, ça c'est vraiment pas par hasard. Pourquoi est-ce que vous pensez de même? C'est parce que vous êtes créé à l'image de Dieu. Vous êtes créé à son ressemblance. Et il y a trop des personnes religieuses qui vont dire que Dieu est un Dieu qui est redoutable, il est fort, il est puissant, il est saint, il est toutes ces choses, oui, mais il est aussi un tendre Père qui nous aime avec un amour qui est infiniment au-delà de l'amour d'une mère ou d'un père terrestre. Vous êtes d'accord? Et si nous, étant les hommes ou les femmes, on pourrait dire terrestres ou même méchants, nés avec une nature pécheresse, si nous savons comment communiquer la grâce, la compassion, la miséricorde à nos enfants, si nous désirons ardemment les voir en bonne santé, à combien plus fort raison est-ce que notre Père Céleste, est-ce qu'il veut nous voir en forme et en santé? On a besoin de changer notre façon de penser. trop souvent, les églises ont même enseigné. Mais vois-tu, le Seigneur, il veut te faire passer par cette maladie pour t'éprouver, ou pour t'enseigner quelque chose, ou pour te rendre saint. Ça me fâche, pour te dire la vérité. Je suis déjà allé voir des personnes dans les hôpitaux qui sont malades, et je vois dans les tiroirs, dans l'hôpital, des petits livres religieux qui parlent de la souffrance et comment plus on souffre, plus on est saint, plus on est pur. Ça, c'est de la folie. Amen? C'est pas vrai. Dieu est un Dieu qui est bon, Dieu est un Dieu d'amour, Dieu est un Dieu de miséricorde, et on voit dans la parole de Dieu, en Proverbe chapitre 3, on parle d'une vie heureuse, en Proverbe chapitre 3, et on va lire ici en verset 7, parce que c'est ça qu'on fait. On prend Proverbe chapitre 3, et verset par verset, depuis quelques semaines, on lit qu'est-ce que Dieu dit. Et on a déjà dit que ça, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous parle. Dieu dit en Proverbe 3, verset 7, « Ne sois pas sage à tes propres yeux. » Crains l'Éternel et détourne-toi du mal, ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Combien de vous aimeriez avoir la santé dans tous vos muscles et le rafraîchissement dans tes os? Amen? Ça, c'est une chose que Dieu a dit. C'est pas moi, c'est pas la parole de Pasteur Ken Taylor, mais c'est la parole de Dieu inspirée par lui. Amen? La santé divine vous appartient en Jésus-Christ. Mais pourquoi est-ce qu'il y a tant de chrétiens qui sont malades? On va arriver à cela. Est-ce que vous aimeriez savoir? Il y a plusieurs raisons. Mais on va voir la raison primordiale pour laquelle les chrétiens sont souvent malades aujourd'hui. Et on va voir comment éviter ce problème et comment marcher dans la santé divine. Quand on parle de la santé divine, on ne parle pas de la guérison divine. C'est deux choses différentes. Mieux vaut prévenir que guérir. La guérison divine nous appartient en Jésus-Christ. C'est une promesse. Par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Moi, je crois de tout mon cœur, et si ça vous intéresse, j'ai une série de cassettes, 8 heures d'enseignement sur le plan de Dieu de la guérison divine. On n'a pas le temps d'y aller aujourd'hui et de voir en détail tout le plan de Dieu pour la guérison, mais ça fait partie de votre rédemption. Le salut de votre âme, le pardon de vos péchés et la guérison de vos péchés, ces choses vont du pair. Amen? Mais qu'est-ce qu'on voit, c'est que Dieu veut pas juste qu'on soit guéri, mais son plan idéal, c'est qu'on marche en santé. Et en fait, 3 Jean chapitre 1 verset 2, et c'est dans vos notes, Dieu a dit, par l'Esprit Saint, à travers l'apôtre Jean, il a dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. » C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Hein? Je souhaite que tu prospères à tous égards. Dieu ne veut pas que tu sois pauvre. Dieu ne veut pas que tu sois malheureux dans la vie. Dieu veut que tu prospères. Comment? À tous égards. Et sois en quoi? Bonne santé. Tout le monde dit bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Donc, ça, c'est la parole de Dieu. Donc, laisse-moi vous poser une question. Est-ce que c'est la volonté de Dieu pour vous d'être malade ou en bonne santé? Amen. Amen. Je veux que vous saisissiez la réalité une fois pour toutes. C'est jamais la volonté de Dieu pour vous d'être malade. Est-ce que ça arrive des fois? Oui, ça arrive. Moi, je suis tombé malade des fois. Je sais qu'est-ce que c'est d'être malade. Et même en tant que chrétien qui connaît la parole de Dieu, je sais qu'est-ce que c'est de tomber malade. Mais c'est pas qu'est-ce que Dieu veut. Il veut que vous soyez en bonne santé. Il veut que vous soyez prospères. En Proverbe chapitre 4, il y a un autre verset qu'on va lire. On est en Proverbe chapitre 3, mais regardons Proverbe 4, verset 20. C'est marqué 21. « Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. » Oh, pardon, je ne suis pas à la bonne place. C'est verset 20 de Proverbe 4. « Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Pourquoi? Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, car c'est la santé pour tout leur corps. » Amen. La santé pour tout leur corps. Est-ce que ça vous intéresse de marcher en bonne santé tous les jours de votre vie? Je veux que vous sachiez, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas pour la plupart des chrétiens. Mais c'est possible. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ce n'est pas le cas pour la plupart des chrétiens? On va voir dans quelques minutes. Parce que Dieu nous a donné en Proverbe 3, encore, verset 7, et il nous a donné vraiment une prescription, on pourrait dire. Il nous a donné les principes qui s'appliquent à notre santé divine. Si vous voulez marcher en bonne santé, chaque promesse de Dieu est reliée à un commandement. Vous êtes d'accord? Si vous faites telle chose, vous allez avoir telle chose. C'est comme une promesse qui est toujours conditionnelle. Si tu confesses avec la bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si quelqu'un va dire, mais si le Seigneur veut que je sois sauvé, il va me sauver. Laisse-moi vous dire, il vous a déjà sauvé. Amen? Il a déjà versé son sang sur la croix, et vous êtes déjà pardonné en lui, mais c'est à vous maintenant de recevoir par la foi le salut qui vous appartient. Même chose, les chrétiens qui vont dire, si le Seigneur veut que je sois guéri, il va me guérir. J'entends parler des personnes, oh, j'espère que le Seigneur veut que je sois guéri, j'espère qu'il va me guérir. Il vous a déjà guéri. Est-ce que c'est clair? Mais vous avez besoin de recevoir la guérison par la foi et puis de marcher dans la santé divine par la foi. Donc, il y a trois choses dans ce verset, Proverbe 3, qui nous donnent vraiment la clé comment marcher en bonne santé. Alléluia. Et on voit que toutes ces choses, ça touche à notre cœur. Parce que dans le fond, la santé est reliée à notre cœur. C'est pas un problème physique souvent, c'est un problème spirituel et émotionnel qui nous rend malades. Vous êtes d'accord? Même ils ont fait les études, ceux qui ne connaissent même pas Dieu, ils savent tous que la plupart des maladies sont psychosomatiques. Je pense mal et j'ai mal. Amen? Et je suis inquiet toujours, je suis nerveux. Laisse-moi vous dire, ils ont même une liste de certaines maladies qui sont le résultat de certains types de comportements. Des personnes qui sont toujours stressées vont avoir certaines maladies. Les personnes qui portent l'amertume dans le cœur vont souvent avoir les problèmes du cancer. C'est vrai, n'est-ce pas? Il y a le non-pardon qui ouvre la porte à certaines maladies. Il y a l'inquiétude qui ouvre la porte à d'autres maladies. Donc vraiment, le problème de santé, c'est 9 fois sur 10 un problème du cœur. Pas toujours. Il y a des fois des choses qui sont purement physiques. Et il faut distinguer entre les deux. Des fois, c'est juste dans les gènes d'une personne. Des fois, c'est juste vraiment parce que nous vivons dans un monde infecté par le péché. Mais laisse-moi vous dire que 9 fois sur 10, les problèmes de santé sont les problèmes du cœur. Et c'est pourquoi Proverbe 17, 22 dit, c'est dans vos notes, « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. » Un cœur joyeux. Et même les non-croyants savent que c'est vrai. J'ai entendu une histoire d'un homme qui avait un cancer, une tumeur, et il est allé au médecin, le médecin a dit, tu n'as pas beaucoup de temps pour vivre, tu as un cancer, puis qu'est-ce qu'il a fait? Savez-vous qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé louer les vidéos des trois stooges. Vous savez c'est quoi les trois stooges, hein? Les trois stooges, ce sont des trois, mais c'est des vieux films, noir et blanc, des trois... comment est-ce qu'on appelle ça, the Three Stooges, hein? Il y avait un mot pour ça. Les trois Stooges, hein? Et ils font des bêtises. C'est pas vraiment les films de qualité, laisse-moi vous dire. C'est pas méchant, mais c'est juste des bêtises, hein? Des personnes qui font les choses, la folie. Mais il fait rire le monde. Et là, pendant 3 semaines, je pense, il a fermé la porte de sa maison et tout ce qu'il a fait jour et nuit, il regardait les films, les comics, et riait, et 3 semaines plus tard, le cancer était disparu. Mais ça, c'est un principe biblique. Un cœur joyeux est un bon remède. Nous qui connaissons le Seigneur, on n'a pas besoin d'aller louer les films, on peut louer le Seigneur. Amen. On peut se réjouir en lui. Et on peut rire en lui. On peut rire même dans l'esprit. Et c'est bon ça, n'est-ce pas? Alléluia. C'est un problème du cœur, souvent qui cause des problèmes de santé. Donc, trois choses en Proverbe 3, verset 7, que nous voyons. Il a dit, ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Et car ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Donc, nous voyons trois choses. Première chose, si on veut marcher en bonne santé, il faut marcher dans l'humilité en vous soumettant à la parole. Marchez dans l'humilité. Ne sois pas sage à vos propres yeux. Si vous êtes une personne orgueilleuse, vous allez avoir de la difficulté à garder la bonne santé. Amen? C'est pas moi qui le dis. Je vous donne vraiment les réponses de la parole de Dieu. Dieu veut que vous soyez en bonne santé. Voici comment il faut arriver à marcher dans la bonne santé. Numéro un, il faut marcher dans l'humilité. Dieu résiste aux orgueilleux. Ceux qui sont orgueilleux, ceux qui pensent être plus grands que Dieu, ou ceux qui pensent être plus sages que Dieu, vous dites, mais pasteur, franchement, qui pense être plus grand que Dieu? Satan pensait être plus grand que Dieu, n'est-ce pas? Et à chaque fois qu'une personne dit, j'ai pas besoin de la parole, j'ai pas besoin de Dieu, si à chaque fois que quelqu'un entend un message de la parole ou lit une instruction de la parole de Dieu, à chaque fois que nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, nous sommes en train de dire, je sais mieux que lui. N'est-ce pas vrai? Quand Dieu nous dit, pardonnez-vous réciproquement comme Christ vous a pardonné, et on dit, mais oui, Seigneur, mais c'est la dernière fois. J'ai déjà pardonné 1000 fois et je ne vais pas pardonner 1001 fois. Là, on marche dans l'orgueil, n'est-ce pas? À chaque fois quand Dieu nous demande de faire quelque chose et on dit non, je ne veux pas me soumettre à qu'est-ce qu'il dit, c'est l'orgueil. Et Dieu résiste à l'orgueil et il donne sa grâce aux humbles. Donc, c'est pourquoi la Bible dit, en Jacques chapitre 1, verset 21, c'est pourquoi rejetez tout ce qui s'allie et tous les excès de la méchanceté et accueillez avec humilité la parole que Dieu plante dans votre cœur. Car elle, c'est la parole. La parole a le pouvoir de vous sauver. Et si vous êtes venu le mercredi soir, vous savez que le mot sauver en grec, c'est sozo, qui veut dire pas juste le sauver de vos péchés, mais c'est la délivrance, aussi la guérison, et c'est aussi la raison saine. La parole a le pouvoir de vous sauver de vos péchés, mais aussi de vous guérir de vos maladies. Mais si vous ne recevez pas la parole avec humilité, si vous dites à chaque fois que quelqu'un prêche ou quand vous lisez la Bible, mais moi je connais déjà ces versets, moi j'ai déjà entendu ça 100 fois, si vous avez une attitude qui est orgueilleuse, vous ne serez pas capable de recevoir la parole qui est plantée dans votre cœur et qui peut vous sauver. Donc gardez l'humilité devant Dieu. Sachez que sans lui, vous êtes rien. Amen. Jésus a dit, à part moi, vous pouvez rien faire. Sans moi, vous pouvez rien faire. Mais si on reste branché à lui et sa parole est en nous, on va porter du fruit, on va marcher en bonne santé. Deuxième chose qui est marquée, ne sois pas sage, oui, vous soumettant à la parole de Dieu. Deuxième chose qui est marquée là, crains l'Éternel et détourne-toi du mal, mais marchez dans la crainte de Dieu. Si vous voulez marcher en bonne santé, voici les directions. Marchez dans la crainte de Dieu. Est-ce que ça veut dire que vous avez peur de Dieu? Nous, non. Mais ça veut dire que vous avez de la révérence pour lui, du respect pour lui. La crainte de l'Éternel, c'est de haïr le mal. On devrait détester le péché. Savez-vous que le péché nous rend malades? Une des raisons pour laquelle Dieu ne veut pas qu'on pêche, c'est parce qu'il veut nous protéger. Amen. Beaucoup des choses que Dieu dit sont péchés, on sait maintenant que pourquoi c'est dangereux. Une chose, juste pour donner un exemple. Si un homme se marie avec une femme et les deux personnes restent fidèles l'un envers l'autre pendant toute leur vie, ils ne courent aucun risque d'attraper les maladies transmises sexuellement. C'est impossible. Amen. Mais si on commence à changer de partenaire et ils disent qu'au Canada, j'ai lu cela il y a quelques ans, au Canada, le moyen pour les citoyens canadiens, c'est 14 partenaires sexuels par personne. Ça, c'est le moyen dans ce pays. La plupart des gens vont avoir les expériences sexuelles avec un moyen de 14 autres personnes. Et Est-ce qu'on est étonné de voir le sida, de voir les autres maladies transmises sexuellement? Dieu nous aime et son plan pour nous, c'est le meilleur. Il veut nous protéger. Amen? Et c'est pourquoi si on respecte sa loi et on respecte sa parole et on craint l'Éternel, on va marcher en bonne santé. Gloire à Dieu. Marchez dans l'humilité en vous soumettant à la parole. Marchez dans la crainte de Dieu. Et là, on va finir la troisième chose ici qui est la plus importante, je crois, et détourne-toi du mal. Et dans vos notes, j'ai écrit, détournez-vous du mal, comment? En marchant dans l'amour. En marchant dans l'amour. C'est pas juste une question de dire, je veux pas faire du mal, je veux pas faire du mal. Non, non, c'est pas assez de résister le négatif. Il faut être proactif. Il faut avoir une stratégie de pas juste, pas se laisser vaincre par le mal, mais de vaincre le mal avec le bien. C'est ça que la Bible dit. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Et ça, c'est la raison primordiale pourquoi il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont souvent malades. Je n'ai pas dit que c'est toujours le cas. Souvent, ça peut être juste parce que nous n'avons pas obéi aux lois naturelles. Si une personne ne dort pas, si une personne ne mange pas bien comme il faut, si une personne travaille sans jamais se reposer, il met jamais son manteau et il ne mange que des bonbons, la crème glacée, la personne va tomber malade. Vous êtes d'accord? Mais souvent, quand on parle des chrétiens, la raison pour laquelle ils sont malades, c'est parce qu'ils ne marchent pas dans l'amour. Est-ce que je le dis? Est-ce que c'est mon opinion? Opinion? Non, c'est pas mon opinion, c'est qu'est-ce que la Bible dit. Et regardez, c'est dans vos notes. 1 Corinthiens 11, 29 dit, car celui qui mange, ça parle de, cette parole s'adresse aux chrétiens qui se réunissent pour le repas du Seigneur. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit en jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Donc, ça c'est Dieu qui le dit, n'est-ce pas? Pourquoi? Il a dit, voici pourquoi il y a un grand nombre de vous qui sont malades, et plusieurs sont morts même avant le temps. Pourquoi? Ils n'ont pas discerné le corps de Christ. Qu'est-ce que cela veut dire, ils n'ont pas discerné le corps de Christ? Je pense qu'il y a une double application. Premièrement, ils n'ont pas réalisé que Jésus a versé son sang pour pardonner le péché, mais que son corps a été brisé pour notre guérison. Et la Bible dit que mon peuple périsse faute de connaissance. Quand les enfants d'Israël sont partis de l'Égypte, quand ils ont été délivrés de l'esclavage, Dieu a dit, prends un agneau sans tache et immole l'agneau, et il faut mettre son sang sur les linteaux de la porte, et ensuite, il faut manger la chair de l'agneau. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis le sang au-dessus de la porte? Parce que quand l'ange destructeur a vu le sang, il a passé par-dessus et la famille a été sauvée. Leur vie a été sauvée de la mort grâce à la sang de Jésus. Amen? Grâce au sang. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont mangé la chair de l'agneau? Parce que la Bible dit qu'il y avait dans tout le peuple, quand ils sont quittés l'Égypte, il n'y avait même pas une personne qui traînait le pied. Imaginez, il y avait autour de 600 000 personnes, on ne sait pas exactement le nombre de personnes, mais autour de cela, même plus probablement, c'est avec tous les enfants et tout le monde, c'est comme la ville de Montréal. Imaginez si on était obligé d'amener toute la ville de Montréal demain matin à Drummondville, à pied. Et imaginez si tous ceux qui sont à l'hôpital, tous ceux qui sont dans les maisons, tous ceux qui sont là ont besoin de marcher à Drummondville. Imaginez. Ceux qui ont travaillé dans les hôpitaux, vous savez qu'il y a beaucoup des infirmes, beaucoup des personnes faibles. Vous êtes d'accord? Mais la Bible dit, c'est pas moi qui l'invente, la Bible dit qu'il n'y avait pas une personne qui traînait le pied. Comment ça? Parce que le corps de l'agneau, la chair de l'agneau, surnaturellement a donné la force et la santé à ce peuple. Le sang les a sauvés de la mort et la chair de l'agneau les a guéris. Amen? Donc, il y a des personnes qui ne discernent pas le corps de Christ et ils sont encore malades et ils meurent. Ils vont mourir parce que Ils sont dans l'ignorance. Ils ne savent pas réclamer la promesse de la guérison. Mais ça, c'est une signification. Mais une autre chose aussi. Le corps de Christ, c'est quoi aujourd'hui sur la terre? C'est qui? C'est nous, c'est l'Église. Chaque homme et chaque femme, chaque enfant qui est né de nouveau, qui est en Jésus-Christ, fait partie du corps de Jésus-Christ. Amen? Et savez-vous que si on ne discerne pas, si on ne donne pas l'honneur au corps de Jésus-Christ, si on est en chicane avec les autres membres du corps de Christ, si on est offensé par les autres membres du corps de Christ, si on ne marche pas dans l'unité avec les autres membres du corps de Christ, si on n'est pas en unité, en harmonie avec les autres membres du corps, si on ne discerne pas le corps, c'est pourquoi il y a beaucoup d'infirmes, beaucoup de malades et plusieurs sont morts. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Donc, voyez-vous l'importance de marcher dans l'amour? Il y a même pas une semaine que le révérend Kenneth Hagin est allé voir le Seigneur. C'était un homme de Dieu, il avait 86 ans quand il est décédé. Il était dans le ministère presque 70 ans parce qu'il a commencé à prêcher à l'âge de 17. Quand il avait 15 ans, les médecins ont dit, vous n'allez jamais voir votre 16e anniversaire parce que personne avec la condition que vous avez, il avait deux gros, gros maladies, personne n'a jamais vécu au-dessus de 16 ans. Il était surnaturellement guéri par la puissance de Dieu. Et vous écoutez son témoignage, il a dit qu'il n'a même pas eu des maux de tête, il y avait juste plusieurs occasions dans sa vie où il commençait à être attaqué avec la maladie et à chaque fois, il a dit, c'est quand il a sorti de la marche d'amour. Dès qu'il a commencé à être en chicane avec des personnes, c'est là où il était attaqué par la maladie. Et savez-vous qu'est-ce qu'il faisait? J'ai écouté même son service funéraire et sa petite fille donnait un témoignage. Une fois, sa petite fille parlait avec le grand-papa, Kenneth Hagin, et ils ont commencé à échanger les paroles un peu vives, et ils avaient une discussion assez vive, et même presque, on pourrait dire, un petit débat. Et il a dit les choses qui étaient un peu dures. Et là, pas longtemps après, il commençait à avoir tous les symptômes d'une rhume et tout. Pourquoi? Est-ce que c'est Dieu qui a mis ça? Non! C'est parce que quand on ne marche pas dans l'amour, on s'éloigne de la protection de Dieu. C'est pas Dieu qui envoie la maladie, mais c'est nous. On est sous la parapluie de Dieu, on est protégé, on marche dans la bénédiction et la santé divine. Mais quand on sort de la 12-31, ceux qui ont été là il y a quelques années, vous savez c'est quoi? 1 Corinthiens 12, verset 31 dit, « Je vais vous montrer une voie par excellence. » C'est la voie de l'amour. C'est comme une route qui est une autoroute qui nous amène à la victoire et à la gloire. Si on sort de la marche de l'amour, on se rend vraiment comme cible pour l'ennemi et toutes les attaques de l'ennemi et on n'est plus sous la protection de Dieu. Amen. Et sa petite fille a dit, c'était quelque chose, mon grand-père est venu à moi en pleurant, en disant, « Oh, ma chérie, pardonne-moi. » J'étais un peu dur avec toi. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je n'étais pas correct quand je t'ai parlé comme ça. Et il était guéri instantanément. Voyez-vous l'importance de marcher dans l'amour de Dieu? Il n'y a rien de plus important. L'amour nous amène à la victoire. Le non-pardon nous amène à la défaite. C'est comme les singes. Vous savez comment ils attrapent les singes? En Afrique, il y a certains lieux où ils vont faire la chasse aux singes, mais ils ont une méthode assez peculiaire. Ils ont une cage avec un bâton. Et le bâton est trop large pour sortir d'entre les barreaux. Et il met un genre à pas sur le bâton. Et à chaque fois qu'un singe vient, il voit quelque chose d'intéressant, il va prendre le bâton. Et il va saisir le bâton comme ça, mais il va essayer de le faire sortir de la cage, mais il n'est pas capable. Mais il essaie, pas capable, mais il ne lâche pas. Il l'a. Savez-vous, le mot « offense » veut dire littéralement « à pas », comme pour un piège. Et là, le singe, il tient ferme jusqu'au moment où il y a des chasseurs qui sont cachés, autour du cage, puis il sort avec des bâtons et commence à battre le singe jusqu'à ce qu'il est mort. Mais le singe, il ne lâche jamais prise. Ça, c'est comme nous, n'est-ce pas? Des fois, quelqu'un fait quelque chose qui ne fait pas notre affaire. Quelqu'un nous blesse avec la langue. Quelqu'un nous blesse avec une action, une mauvaise action, et on se laisse offenser et on saisit l'offense. Il va payer pour ça. Mais c'est qui va payer? C'est nous. On ne lâche pas prise, mais puis l'ennemi vient, le diable vient avec ses bâtons de maladie et il nous frappe sur la tête pour nous tuer. Amen? Vaut mieux lâcher prise et dire, Seigneur, pardonne-moi et je vais aller pardonner cette personne. Alléluia. Il y a un dernier verset que je veux partager aujourd'hui. Juste, on va terminer avec cela. On ne va pas prendre longtemps. Il y a beaucoup de versets que j'ai mis dans vos notes que vous pouvez lire à la maison même. Mais 1 Pierre chapitre 3, verset 8. 1 Pierre 3, 8. On parle de l'importance de marcher dans l'amour. C'est une prescription pour marcher en bonne santé et voir les jours heureux. Sur la deuxième page de vos notes, si vous voulez suivre. Sinon, tu peux aller avec moi dans vos Bibles. 1 Pierre chapitre 3. Alléluia. La Bible dit que nous ne sommes pas ignorants des desseins de l'ennemi. On sait comment l'ennemi fonctionne. On sait qu'est-ce que le diable veut faire pour détruire l'œuvre de Dieu. Il veut semer de la division. Il veut qu'on se laisse offenser par les autres. Parce que si on se laisse offenser par notre femme, par notre mari, par notre employeur, employé, par quelqu'un dans l'église, dès qu'on est offensé, et dès qu'on prenne cette offense et on saisit l'offense, on devient cible pour l'ennemi, on vient d'avoir une division et la puissance de Dieu ne coule plus. Amen? C'est comme ça que ça marche. C'est pourquoi qu'il faut garder l'unité de l'esprit. 1 Pierre 3, verset 8 dit, « Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. » Ne rendez point mal pour le mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés. Vous voulez savoir c'est quoi votre appel? Votre appel, c'est de bénir les autres membres du corps de Christ, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie, est-ce qu'il y a des gens qui veulent aimer la vie ce matin? Et voir des jours heureux, qui veut voir des jours heureux? Voici qu'est-ce qu'il faut faire. Trois choses. Numéro un, qu'il préserve sa langue du mal. Donc, préservez votre langue du mal. Et s'élève des paroles trompeuses. Verset 11, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Donc, numéro deux, c'est éloignez-vous du mal en faisant du bien. Qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Donc, numéro 3, c'est rechercher et poursuivre la paix. C'est Dieu qui le dit. Ne sois pas sage à vos propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Car ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Si on veut se détourner du mal, si on veut marcher dans l'amour, comment est-ce qu'il peut le faire? Oh, il faut le faire. Première chose, préservez votre langue du mal. Faites attention à ce que vous dites à propos des autres. Une chose, je donne encore l'exemple de Kenneth Hagin. 86 ans, il a été presque jamais malade. Mais écoutez bien, on n'a pas encore terminé. On a terminé les notes, mais on n'a pas terminé. Une chose qu'on sait, c'était un homme du bien qui ne parlait jamais contre les autres. On écoutait serviteur de Dieu après serviteur de Dieu, pasteur après pasteur qui disait une chose que je sais à propos de cet homme, c'était un homme de Dieu, il n'a jamais parlé du mal, en mal des autres. Même si les autres avaient tort. Et je m'en souviens quand on était à l'école biblique, il a toujours dit une chose que je ne vais jamais faire, je ne vais jamais être la raison pour la destruction d'un autre frère dans le Seigneur. Si un autre ministère a tort, même si la personne est vraiment complètement dans le tort, ce n'est pas moi qui vais le critiquer, ce n'est pas moi qui vais l'accuser. Il a gardé son cœur, il a gardé sa langue. Et quand les autres ont commencé à parler en mal des autres, il a quitté la pièce, toujours. Je quitte la pièce. On devrait vivre comme ça, n'est-ce pas? Il faut avoir du respect les uns pour les autres, surtout si vous êtes marié avec la personne. Ou si vous êtes dans l'église avec une personne, attention à ce que vous dites. gardez votre langue. Bénissez au lieu de maudire. On a tous des choses qui vont plus ou moins bien dans notre vie, n'est-ce pas vrai? Moi, je peux trouver quelque chose. Je sais que, si vous voulez, on pourrait vous donner un micro et tout le monde pourrait venir ici et dire quelque chose de négatif à propos de moi, à propos de quelqu'un d'autre dans la salle. On peut tous trouver au moins une chose de négative, mais moi, j'aimerais mieux trouver une chose de positive. Amen? On devrait faire les efforts. Ça, c'est la voie de la santé. Si je parle en bien, je vais voir les jours heureux. Si je bénis les autres, je vais être béni. Amen. Il s'est marqué aussi, préservez votre langue du mal et aussi, éloignez-vous du mal et faites du bien. Ça, c'est facile. Faites pour les autres ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous, n'est-ce pas? Si vous ne voulez pas que les autres parlent dans votre dos, parlez pas dans le dos des autres. Est-ce que j'ai raison? Alléluia, croyez le meilleur. Si vous ne voulez pas que les autres soupçonnent le mal, soupçonnez pas le mal vous-même. Et troisième chose qu'on a vue, pour qu'ils poursuivent, qu'ils cherchent la paix et la poursuivent. Laisse-moi vous dire que dans l'Église de Jésus-Christ, nous avons besoin de chercher la paix et de poursuivre la paix. Et le dernier verset que je veux souligner, c'est en Romains chapitre 12. S'il est possible, et autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec qui? Plus fort, s'il vous plaît. Avec qui? Avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sous sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Combien de nous avons l'habitude de poursuivre la paix? La Bible dit, autant que ça dépend de vous, s'il est possible, et autant que ça dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que même si l'autre personne a tort, même si c'est lui ou c'est elle qui t'a blessé, c'est votre responsabilité d'aller voir et d'essayer de régler le problème. On dit, oh, mais j'ai essayé une fois, c'est tout. La Bible dit, cherche la paix et poursuivez la paix. Est-ce que vous avez déjà poursuivi quelque chose? Hein? Il y a des hommes qui ont poursuivi les femmes pour se marier avec elles. Mais là, ils ne sont pas prêts à poursuivre la paix avec sa femme quand ça va mal. Amen? Et est-ce que vous avez déjà vu les policiers à la télévision qui vont poursuivre un voleur? Hein? Ils vont poursuivre à toute vitesse jusqu'à atteindre et jusqu'à saisir. Ils vont pas dire, oh, mais tu sais, j'ai essayé. Hein? Ils voient le voleur qui part. Oh, mais j'ai essayé. J'ai pas pu l'attraper. Non, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre toute sa force, toute son énergie. Il va courir. Il va courir et courir et courir jusqu'au bout. Il va même des fois appeler pour avoir des renforcements. Hey, aide-moi, il faut l'attraper. Et c'est ça que Dieu dit de faire. Poursuis la paix avec les hommes. Si quelqu'un vous a blessé, si quelqu'un vous a fait tort, des fois, ce n'est pas possible parce que l'autre personne, il ne veut rien savoir. Mais moi, je dirais, aussi longtemps que tu as l'onction de Dieu pour le faire, vous devrez continuer à poursuivre la paix avec tous les hommes. Imaginez si toute l'Église ferait ça. À chaque fois qu'il y a une petite offense, hey, est-ce que j'ai fait quelque chose qui t'a blessé? Si oui, je m'excuse, je te demande pardon. Même si tu sais dans le fond que tu n'as rien fait. Est-ce que je t'ai blessé? Je me demande pardon. Amen. On parle des vraies choses ce matin. Ça, c'est la différence entre une vie heureuse et une vie misérable. Quelqu'un qui est humble, qui craint Dieu et qui se détourne du mal en marchant dans l'amour. Et quelqu'un qui va marcher dans la bonne santé. Amen. On va se lever debout, on va prier. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. La semaine prochaine, on va finir notre série sur le secret d'une vie heureuse. Tu ne veux pas manquer ça. Ça va être vraiment bon et bénissant. Mais j'ai prié beaucoup pour ce message ce matin même. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas heureux et qui souffrent et qui sont malades même. Comme je dis, c'est pas toujours parce qu'ils ont fait quelque chose de pas correct. Des fois, c'est juste les choses naturelles. Et dans ce cas-là, il faut connaître les promesses de Dieu. Il faut saisir par la foi la promesse de la guérison. Mais ce que je veux pour nous en tant qu'Église, c'est que nous puissions être une Église en santé, spirituellement, émotionnellement et physiquement. Moi, je veux tellement avoir une atmosphère dans notre Église où c'est une atmosphère de sécurité. On n'a pas besoin d'avoir peur que quelqu'un va parler dans notre dos. Pas besoin d'avoir peur que quelqu'un va nous critiquer, nous juger, mais qu'on sait, on s'entraide, on s'encourage, on dit la vérité avec amour. La Bible dit, si on voit une personne qui fait des choses qui ne sont pas correctes, ceux qui sont matures peuvent aller voir la personne. On peut corriger, on peut redresser, on peut faire reprendre des personnes avec amour, si tu as la bonne relation. Tu ne peux pas reprendre une personne que tu ne connais pas et qui ne t'a pas donné l'autorité pour le faire. Mais en général, qu'est-ce que je cherche? Je veux avoir une église où l'amour de Dieu règne. Parce que ça, c'est une église en santé. Je veux avoir une église où on croit toujours le meilleur. Même si quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas correct, on va croire le meilleur. On ne va pas prendre le téléphone et appeler 10 autres églises. Franchement, qu'est-ce qui se passe? Non, on va prier, on va bénir. Notre langue va bénir. Nos pensées vont rester pures. Nous allons rester sous la parapluie, la protection de Dieu Tout-Puissant. Merci, Père Céleste. Père, au nom de Jésus, sonde notre cœur ce matin. Seigneur, s'il y a des choses que j'ai fait même pour blesser les personnes, montre-moi. Je ne veux pas blesser mes frères et mes sœurs. Je les aime. Seigneur, s'il y a d'autres personnes qui m'ont blessé, je prends la décision de pardonner. Seigneur, si au milieu de nous, il y a des personnes qui ont offensé, qui ont été offensées, maintenant même, sonde leur cœur. Que ces personnes prennent la décision de poursuivre jusqu'à atteindre la paix. Saisir la paix. Tu es un Dieu de réconciliation. Père, au nom de Jésus, merci. Merci, Seigneur Jésus. Avec tous les yeux fermés, est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui dirait, « Pasteur, je veux savoir que mes péchés sont pardonnés afin que je puisse pardonner les autres. » Peut-être vous êtes ici ce matin, vous n'êtes pas à 100% certaine d'être pardonné ou d'avoir la vie éternelle. La bonne nouvelle, c'est que la vie éternelle, c'est un don gratuit. Jésus est mort, il est ressuscité, et si tu confesses avec ta bouche le Seigneur Jésus, c'est-à-dire qu'il est ton maître, à partir d'aujourd'hui, il va régner dans ta vie. Et si tu crois qu'il est ressuscité des morts, tu seras sauvé. S'il y a quelqu'un ce matin qui dirait, « Pasteur, je veux être sûr et certain de connaître Jésus et d'avoir une place réservée pour moi au ciel, j'aimerais juste que tu lèves la main. » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait prier et donner sa vie à Jésus ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Peut-être que tout le monde ici l'a déjà fait, je ne sais pas, c'est entre toi le Seigneur. Mais j'ai vraiment à cœur qu'on vous prend juste une ou deux minutes, là où vous êtes, sondez votre cœur. Est-ce que vous avez de l'amertume? La rancune, manque de pardon, frustration, offense. S'il y a quelque chose, laissez le sang précieux de Jésus guérir cela aujourd'hui. Cette amertume va être remplacée avec la joie, et un cœur joyeux, c'est un bon remède. Vous allez voir, vous allez même sentir mieux. Alléluia. Père Céleste, je prie pour chaque personne qui est ici présente, qui peut être malade, et j'ai à cœur de le faire comme ça aujourd'hui. Si vous êtes malade aujourd'hui, et vous avez quelque chose à pardonner, pardonnez là où vous êtes maintenant. Juste entre toi et le Seigneur, prenez une décision de pardonner, et si c'est nécessaire, même aller poursuivre la personne et essayer de réconcilier, si il est possible. Ce n'est pas toujours possible. S'il est possible, et autant que ça dépend de vous. Laissez pas le problème d'une autre personne devenir votre problème. Père, au nom de Jésus, si il y a la moindre offense, on lâche prise du bâton. On ne veut pas faire le singe, on veut faire le sage. Au nom de Jésus, merci Père Céleste. Et si vous êtes malade dans votre corps physique maintenant, juste mettez votre main là où vous avez mal. J'ai à cœur de le faire comme ça aujourd'hui. Père, je prie pour une touche de guérison pour chaque personne ici présente. Une guérison surtout dans l'âme et le cœur, mais aussi dans le corps physique. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Père. Moi, je ressens la présence de Dieu. L'esprit de réconciliation, l'esprit d'amour et de pardon.